ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, une émission qui va parler de l'observation comme contre-pouvoir citoyen, mais pas que. Avec nous dans les studios, Pascal Gassiot et Jean-François Mignard qui sont ici et maintenant pour échanger autour de l'OPP, soit l'Observatoire toulousain des pratiques policières. Bonjour.
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 Vous allez bien ?
Ouais, ça va.
Bon, dans la période, on va pas mal.
Est-ce que l'on pourrait débuter par une petite présentation de ce qu'est l'OPP, son fonctionnement et surtout pourquoi avoir imaginé cet observatoire ?
Oui, bien sûr. Donc, Pascal Gassiot, donc membre de l'Observatoire toulousain des pratiques policières et membre aussi de la Fondation Copernic, qui est une des composantes de cet observatoire. L'origine de l'OPP, elle est à la fois simple et un peu complexe, mais simple au sens où il y a un peu plus de 6 ans maintenant, il avait été organisé à la Bourse du Travail une réunion autour de la présentation d'un rapport d'une association qui s'appelle l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, qui était venue présenter son rapport sur les violences policières en France. Et ce rapport qui nous a été présenté ce soir-là nous a, pour les militants présents dans la salle, complètement scotchés. Où pourtant nous sommes des militants, pour beaucoup d'entre nous, qui avons de l'expérience, qui avons un peu roulé notre bosse. Mais ce rapport qui était très technique, très froid, très efficace en fin de compte dans ce qu'il disait et dans ce qu'il racontait, nous a laissé pantois. Et on a réalisé qu'entre le vécu qu'on avait, nous, des manifestations, c'était après la mort de Rémi Fraisse à Toulouse, hein, avec les manifestations qu'on suivit, au moment de la loi travail, avec tout ce qui s'est passé, on n'avait pas mesuré à quel point il fallait qu'on sorte un peu le nez de nos manifs toulousaines pour prendre un peu de recul et regarder qu'effectivement, il y avait quelque chose de problématique en France autour de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Je pense qu'on reviendra sur le terme tout à l'heure. Et donc, ce soir-là, quelques militants se sont retrouvés en se disant « On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et l'idée a été avancée à chaud, comme ça, en disant « Et si on faisait une sorte d'observatoire des violences policières ?» Première chose et tout. Bon, très immédiatement, on s'est retrouvés au local de la LDH, de la Ligue des Droits de l'Homme, donc des militants de la Fondation Copernic et de la LDH, pour discuter ensemble de cette notion d'observatoire des violences policières. Et là, très vite, d'abord, on a abandonné le terme d'observatoire des violences policières pour appeler ça observatoire des pratiques policières. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, allez, si on table d'emblée sur les violences policières, on va tout de suite être stigmatisé, de manque d'objectivité.
Taxé d'antipolicier.
Voilà, etc. Donc on a dit, on va faire soft, on va faire parler de pratiques policières, c'est un premier point. Et deuxième point, très vite, on a décidé de travailler dans un cadre d'une approche assez rigoureuse, en fin de compte, de ce qu'on allait raconter. Et il se trouvait que parmi les membres présents autour des tables, de la table ces soirées-là, il y avait une personne qui s'appelle Daniel Verlang, qui est chercheur émérite, enfin professeur émérite au CNRS, dans un labo de sciences sociales, et qui avait déjà
les choses à marcher. Qui écrit sur le genre.
Ouais, qui avait déjà, oui, Daniel est très spécialisé dans le genre, mais avait déjà, dans le cadre de la LDH, favorisé la création d'observatoires citoyens. Donc, il y avait un vécu, un savoir-faire.
Il y avait une culture locale, effectivement, de cette question-là. On avait travaillé sur ce qui s'était passé à Civens, hein, en ligne directe, mais aussi sur d'autres objets qui étaient la question, la façon dont se déroulaient les comparitions immédiates au tribunal de Toulouse, et puis toute une partie concernant la question de l'accueil des étrangers en préfecture. Bref, il y avait déjà toute un savoir-faire ou une culture un peu qui était localement disponible, ce qui fait que ça s'est enclenché assez rapidement.
Absolument. Et donc, cette approche qu'on a voulu scientifique au sens des sciences sociales, hein, a marqué et marque encore durablement l'observatoire parce que on s'est dit il faut absolument qu'on soit inattaquable. C'est-à-dire ce qu'on va dire, et on savait qu'on allait dire des choses qui pouvaient être controversées par certains, il fallait que ça soit inattaquable, qu'on travaille dans une marche extrêmement rigoureuse. Et ça, c'est une des marques de fabrique indéniable de l'observatoire, hormis d'être quelque chose de militant. Les gens qui sont dans l'observatoire ne sont pas des salariés, c'est des bénévoles. Nous sommes des militants par ailleurs dans nos organisations, dans le mouvement social, mais on voulait véritablement donner un peu marqué au sceau de la rigueur scientifique le travail de l'observatoire, et on n'a jamais arrêté sur ce point-là depuis.
Et on n'a d'ailleurs jamais eu à connaître concrètement, réellement, de contestation, qu'elle soit scientifique ou juridique, sous forme de, ou judiciaire, sous forme de plainte par rapport aux objets qu'on a pu amener, chaque fois coupé, recoupé, prouvé, quantifié, documenté. En face de nous, on n'a jamais trouvé personne pour le moment qui ait pu nous dire ce que vous dites est faux. Alors, qu'ils disent des mensonges, c'est vrai, mais qu'ils nous attaquent sur ce qu'on amène, nous, jamais pour le moment.
La rigueur passe par l'objectivité, l'indépendance, la déontologie. C'est important pour vous d'être respecté et pour ça.
Oui,
ouais.
Et alors, derrière tous ces mots d'indépendance, d'objectivité et tout, on peut mettre des tas de contenus, ouais. Hein, on est d'accord. Donc, mais je vais bien les reprendre à notre compte.
Oui.
L'indépendance, parce qu'effectivement, il n'y a personne qui nous tient la main et qui nous guide. Nous sommes un groupe de militants. Alors, c'est vrai que nous sommes sous l'aile protectrice de la Ligue des droits de l'homme, de la Fondation Copernic et du Syndicat des droits de France, mais c'est avant tout une aventure militante. Hein. C'est ce qui vaut d'ailleurs la durabilité de notre observatoire. C'est créer un réseau de gens, de personnes qui ont maintenant des affinités, un vécu commun assez lourd, assez important, qui crée entre nous des rapports de fraternité ou de sororité très importants, notables, qui nous permettent d'ailleurs d'encaisser des manifestations quelquefois extrêmement violentes dans un cadre qui est en fin de compte relativement, entre guillemets, sécurisant pour nous. On se fait beaucoup confiance entre nous. Quand on est au cœur des événements, personne n'est isolé. Il y a ce travail de terrain qui est vécu comme ça et est très important pour notre sûreté. Lorsqu'on s'approche un peu trop de ce qu'on constate. Deuxième point important pour l'Observatoire, c'est d'avoir choisi le fait de beaucoup filmer et photographier. C'est-à-dire pas uniquement raconter, mais saisir les instants, saisir les moments. D'abord parce que si c'est bien fait, c'est inattaquable. On sait que des photos ou des vidéos, ça peut être trafiqué. Mais on a dit il faut que la photo et la vidéo soient un outil de preuve pour nous. Ce que l'on raconte, c'est parce qu'on l'a vu. C'est parce qu'on l'a circonstancié, c'est parce qu'on l'a mis dans une séquence. C'est pas une photo prise dans le vif comme ça, très belle et esthétique éventuellement, qu'on va mettre jeter en pâture pour montrer oh ces méchants policiers. Donc non. C'est aussi un des fondements. Il faut savoir, par exemple, on est certain à garder un peu les archives de l'Observatoire, mais en 6 ans on a des archives. On a des heures de vidéos, 15 000 photos qui attestent de ce qu'on a vu et constaté, et c'est très important, et on vient de le refaire à Sainte-Soline, on en parlera tout à l'heure sans doute, bien évidemment. Toujours cette volonté de dire, et par exemple un petit mot sur les vidéos, on utilise beaucoup l'image dans nos rapports, et l'image elles sont souvent issues de vidéos. Plus que de photos. Alors pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend une vidéo qui dure 2 ou 3 ou 4 minutes, prendre une image au milieu est à peu près la certitude de savoir ce qui s'est passé avant l'image et ce qui va se passer après. Et ça, pareil, c'est une manière de contrer les arguments qu'on nous avance souvent en disant « Oui, mais vous prenez un fait isolé, une photo ceci et cela, mais qu'est-ce qui se passe avant ? Qu'est-ce qui se passe après ?»
Souvent, c'est ce qu'on entend, hein, effectivement.
Et là, on a depuis le début beaucoup, et on tient beaucoup à cet aspect-là.
Oui, juste, pourquoi des vidéos aussi ? Parce que ça renvoie aussi à ce qu'a évoqué Pascal il y a quelques minutes. C'est que ce qu'on observe, c'est les pratiques, c'est pas que des violences. Ce ne sont pas que des actes isolés. C'est une logique qui est une logique de comportement policier qui va depuis la présence sur le terrain, ou non sur le terrain, jusqu'au moment dans lequel il y a effectivement des violences. Autrement dit, on ne fait pas qu'enregistrer, mais aussi il y a cette volonté d'avoir du matériau qui est du matériau pour comprendre. Voilà.
Absolument, je confirme.
Oui, comprendre la stratégie, en fait, la mise en place.
Oui.
Comment... de simples gestes, tenues, positionnements vont avoir des incidences concrètes sur le déroulé de la manifestation, quoi.
Ah, vous me tendez la perche là, en disant
et,
ça.
Et, bah ouais, et les manifestants, manifestantes en ont pas toujours conscience, ouais. Bah,
absolument. Et, petit, on va beaucoup vous parler de l'Observateur tel qu'on l'a vécu et tel qu'on le met en œuvre, hein, depuis des années. C'est vraiment là, on est en live. Ce que vous dites est absolument, ce que tu dis, ouais, en post-tutoriel, je présume, est absolument vrai. Au début, l'Observatoire, on avait fait des petites grilles. Toujours dans ce cadre de travail un peu rigoureux, etc. On a fait des cris où on devait noter le nombre de camions de policiers, et qui c'était, CRS, gendarmes, BACE, ou autres CDI, leur positionnement, etc. Et donc, au début, on a observé de manière un peu technique, comme ça. Mais c'était très important, en fin de compte. Aujourd'hui, pour nous, on le fait presque naturellement, parce que on est rentré un peu dans l'amont, déjà, ce qui se passe avant. Et on a très vite vu où se positionnaient les policiers, en nombre, quel type de policier à quel endroit, les pratiques, par exemple, on a très vite identifié ce qu'on appelle les pratiques de déplacement glissant des forces de l'ordre le long des manifestations. D'ailleurs, un journaliste de la Dépêche du midi a eu un jour, pour une fois, ça arrive, un peu d'humour, en disant que la police avait une pratique glissante dans les manifestations, comme la défense du Stade toulousain. J'avais apprécié le trait d'humour qui était pas faux.
Ce qui n'empêche pas les dérapages.
Et donc on a
une première information, Pascal Gassiot lit la Dépêche, quoi.
Oui, absolument. Malheureusement, c'est une épreuve très douloureuse. Je l'avoue, mais ça fait 40 ans que je suis abonné à la Dépêche du midi. On prend en parler abonné, pourquoi. Ouais. Je pense que c'est important de lire la presse locale, quelle qu'elle soit. Enfin, quelle qu'elle soit. Bon, n'exagérons pas. Dans tout cas, je reviens donc à cette histoire.
Ne nous éloignons pas.
Voilà. Donc, en gros, globalement, on a commencé au début vraiment par observer et vraiment les déploiements policiers, comment ils étaient organisés, comment ils se comportaient, leur armement, le nombre de camions et tout. Bon, au bout d'un moment, on s'est fait on s'ennuyait grave quand même. C'était une période où les manifestations étaient relativement soft à Toulouse. Et bon, on s'est dit, on va compter les camions de flics pendant combien de temps? Bien évidemment, l'actualité nous a rattrapés, en particulier avec le mouvement des Gilets jaunes, mais on a fait quand même ce travail nécessaire. Et ça nous sert toujours, par exemple, un exemple, les gens sont toujours étonnés quand nous filmons des rues vides. Pourquoi ils filment des rues vides? Il y a des gens qui m'interrogent, qu'est-ce que vous voulez? Les gens nous voient prendre une photographie, par exemple, du boulevard du Portal ou du Maréchal Leclerc, ils disent, mais pourquoi tu prends une photo? Il n'y a rien là. Mais je dis, oui, c'est pour me souvenir qu'il n'y a rien là. D'accord? Et bien évidemment, le jour où il y a quelque chose dans cette rue-là, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Et le parfait exemple qu'on a eu, c'est la manifestation du 28 mars, où effectivement, on était en tête de manifestation, les observateurs, et on a vu un canot à eau et 10 camions, 10 fourgons de gendarmes mobiles, boulevard Maréchal Leclerc. Un endroit où ils ne sont jamais. Et nous étions ce jour-là en compagnie d'un journaliste de France 3 qui avait décidé, qui était embedded, comme on dit maintenant, qui était avec nous, avec une équipe, pour nous faire un reportage sur notre activité. Et j'ai dit ça au journaliste de France 3, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, ils sont jamais là, les policiers, il va se passer quelque chose, puisqu'ils sont là. Effectivement,
il s'est passé quelque chose,
quelques minutes après, les policiers... les gendarmes faisaient une intrusion dans le cortège, etc., etc., avec tout ce qui s'en est suivi, dont on reparlera peut-être. Et donc, ce travail un petit peu besogneux, de photographier tout le temps, etc., c'est au cœur de notre pratique, et c'est très important, parce que au-delà de la preuve, même nous, ça nous sert, lorsqu'on prépare nos rapports pour revisionner ce qui s'est passé, c'est tout. Et ça crée une sorte de culture de l'OPP en termes de connaissances de l'occupation militaire de la ville de Toulouse. Alors, ça vous peut-être vous choquer le terme, peut-être pas à Canal Sud, mais tout. Mais dès le début, on a été très sensible à l'Observatoire, et on l'a dit d'ailleurs dans le document de création de l'Observatoire, qu'il y avait une militarisation de l'espace public. Ça nous avait frappé lors de la manifestation. On n'était pas encore créé contre le centre commercial Val Tolosa. Manifestation familiale, les gens arrivaient à pied depuis Plaisance du Touche, et les enfants devant, enfin tout. Et les gens arrivent et se heurtent à la sortie du Pont Neuf, à un déploiement de grilles anti-émeutes, camions à eau, CRS équipés, BACE sur le côté, même deux motards.
BACE, c'est les membres de la brigade anti-criminalité qui a fait ses classes dans les quartiers populaires en faisant ce qu'on appelle du saute-dessus, c'est-à-dire de la police pénale. On n'est pas là pour maintenir l'ordre, on est là pour rattraper des gens et à qui on a donné un chèque en blanc sur l'intervention dans les manifestations, particulièrement à l'occasion des Gilets jaunes, et qui sont particulièrement toxiques au point de vue de l'intervention.
Complètement. Ils sont redoutés, redoutables. Ils sont en civil, un brassard.
Souvent en civil avec le brassard.
Ouais, le brassard, le visage dissimulé la plupart du temps. Quelques outils au niveau de la ceinture.
Quand on était jeune, on disait ils font du flag. C'est leur ADN.
C'est ceux qui font courir.
Oui. Alors, et donc, si vous voulez, en venant, donc voilà, on était dans une période au bout de quelques mois de fonctionnement de l'OPP, bon, on avait l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet. Et puis, quand même, il y a eu un petit phénomène, c'est qu'un jour, en allant prendre service dans une manifestation, un observateur, bon, je peux dire c'était moi en l'occurrence, se fait arrêter par un groupe de 5 policiers de la BAC, et un des policiers sort du dispositif de la BAC et vient vers moi et me dit « Enlevez cette chasuble, on en parlera tout à l'heure, on a des chasubles jaunes et bleus, mais on y reviendra », et me dit « Vous n'avez pas le droit de porter ce genre d'équipement, vous n'êtes pas journaliste, enlevez-moi cette chasuble ». Je lui dis « Mais de quel droit vous me demandez ça, et puis pourquoi vous m'arrêtez là, il n'y a aucune raison ». Et il était extrêmement agressif. J'appelle ses collègues en disant « Messieurs, qu'est-ce qui se passe ?» Là, un collègue vient, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, je dis simplement « On me demande de m'enlever ma chasuble, ça ne me paraît pas normal ».
Ce qui est parfaitement illégal, disons-le. Hein.
Ouais, et bon, le mec s'en fout, il repart, et donc il faut savoir jauger les rapports de force. Et donc j'ai dit, c'est pas la peine de me prendre la tête avec eux et de partir en garde à vue. Je tombe ma chasuble et puis ça rentre dans un petit coin de ma tête quand même. Et au cours de la polémique quand même verbale qu'il y a eu avec lui, il m'a quand même dit, si vous n'êtes pas content, les gens comme vous, vous avez qu'à aller observer en Corée du Nord. Bon, on voit déjà les références très intelligentes. Et donc je suis parti sans ma chasuble, je l'ai remis en place bien évidemment 50 mètres plus loin et j'ai rejoint mes camarades en tête de manifestation. Et puis quelques moments après, dispersion de manifestations, nous sommes le 22 mars 2018, donc avant le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui a quand même été une bascule, et là, nous filmons une dispersion de manifestations, il y a eu l'utilisation de gazeuses à main par les policiers des CDI, compagnies départementales d'intervention, qui ont des bandes bleues sur les casques, qui, à coup de gazeuses à main ou poivre, ce qui est très douloureux, dispersent les 20 ou 30 réfractaires qui traînaient encore sur la chaussée, en gros, globalement. On filme ça, et sans qu'on s'en rende compte, évidemment, d'un seul coup, choc, violence, gaz dans la figure, les policiers de la BAC, nous voyant faire, sont arrivés, ils nous ont gazés à coups de gazeuse à main, sans aucune raison, alors qu'on était à 15 mètres de ce qui se passait, on était en position d'observation. Bon, ça ne nous met pas en joie, le moins qu'on puisse dire. Et je continue, parce qu'il y a quelque chose d'important à se passer. Et on continue, on filme toujours le dispositif, après, avec les yeux qui piquaient un peu. Et là, il y avait le dispositif en haut de la rue de Metz, très connu des manifestants toulousains. Et devant ce dispositif, il y avait un homme en complet veston, strict un peu.
Bien sur lui.
Bien sur lui. Et je filme le dispositif, dont cet homme, en me disant, tiens, qui c'est ce gars-là, etc. Cette personne, à ce moment-là, s'approche de nous et de moi en particulier. Il me dit « Pourquoi vous me filmez ?» Je lui dis « Mais je ne vous filme pas vous particulièrement, je filme le dispositif policier. »
Rappelons qu'on a le droit de filmer des dispositifs policiers.
Bien évidemment.
Oui, on va en reparler. Avec
et à ce moment-là, cet homme met la main à sa poche, me tend une carte et me dit « Je suis Nelson Bouard, je suis le directeur départemental de la sécurité publique. » En gros, le chef des flics à Toulouse, de la police toulousaine. Je souhaite vous rencontrer. » Je prends la carte et je dis, on va en parler entre nous. On en parle entre nous, on en discute, on dit, pourquoi pas, à la limite, aller rencontrer cet homme qui nous demande, qui nous invite et tout. Il nous a reçus après quelques rendez-vous avortés, bon, etc. Et on y est allé, les deux personnes ici présentes à Canal Sud, Jean-François et moi-même, rencontrer cette personne qui nous a reçus de manière très symbolique dans la salle de commandement de la préfecture. Hein, il nous a parti dans un bureau.
Mettre en confiance, le dispositif.
On était quasiment de la famille.
Ouais. magnifique salle. Magnifique salle d'ailleurs. Belle salle en briques rouges. En briques roses. Magnifique salle.
Il y a de plus en plus d'écran même, je dirais.
On discute pendant trois quarts d'heure. Je vous fais grâce du discours. On a dit en souriant entre nous, nous avons eu un discours, des échanges empreints de courtoisie républicaine.
Oui, c'est le terme.
Voilà, très soft. Mais quand même, on a, hormis cette courtoisie, on a eu quand même que. Ça ne faisait pas du tout rigoler de se faire gazer par des baqueux. Et on s'est mis d'accord avec lui, en fin de compte, spontanément, pour dire, il nous a dit, mais ça serait mieux qu'on sache quand vous êtes là, comme ça, je ferai passer la consigne à mes troupes.
Waouh.
Bon, nous, on dit, pourquoi pas, à la limite. Et on dit, mais d'accord, on vous enverra une déclaration à chaque fois que les observateurs sont présents dans les rues de Toulouse. On n'a jamais dérogé à ça depuis. chaque présence est précédée par 48 heures avant d'envoi d'une déclaration en préfecture. Alors, c'est pas pour qu'on nous autorise, mais nous, ça nous a beaucoup servi, il faut le savoir, à passer des rangs de gendarmes mobiles, par exemple, lorsqu'on se balade dans les manifs, on monte notre déclaration. Souvent, ils sont au courant. J'ai même eu un jour un capitaine de gendarmerie qui m'a appelé. « Vous êtes monsieur Gassiot ?» J'ai dit « Oui, oui, oui. Vous avez fait une erreur dans votre déclaration de présence. Je vous ai trompé de jour. » Alors je me suis dit, ce jour-là, tiens, c'est marrant. Ça veut dire qu'ils lisent nos déclarations.
Ça part pas direct poubelle, c'est ça, voilà.
Ouais, c'est, ça part pas directement à la poubelle. Bon, c'est une petite histoire, mais ça montre bien que, quelque part, on a aussi, nous, admis l'idée d'être présent de manière un peu, comment dire...
Officielle, quoi, ça, entre guillemets.
Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les observatoires en France, hein, il n'y a pas que nous, mais l'histoire toulousaine fait qu'on a fait ça, et qu'on ne déroge pas à cela, même si on envoie la déclaration quelquefois quelques heures avant, quand des manifestations sont annoncées d'un jour à l'autre.
Ça donne du crédit à l'observatoire,
en tout alors, cas. Je ne sais pas si ça donne du crédit, nous, en tous les cas, on a dit ça ce jour-là, on le respecte.
Oui, d'une part, et puis d'autre part, ça nous situe dans un rapport qui est un rapport qui n'est pas celui de la clandestinité, mais qui est celui de la transparence sur lequel on est extrêmement vigilant, puisque ce que nous pratiquons est quelque chose qui se pratique aussi ailleurs et qui est reconnu dans d'autres pays très différemment de la France. Qu'il y ait des observateurs dans des manifestations dans lesquelles la police intervient, c'est quelque chose qui peut paraître banal ailleurs qu'en France. Ça paraît très problématique au ministre de l'Intérieur et à ses préfets. Il y a une différence et on tient quand même à être très, 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 très catégorique là-dessus. C'est un enjeu fort de citoyenneté et de contrôle des pouvoirs.
On s'était connu à Pigalle, chez la femme d'un député, chez la femme d'un député. Qui avait le goût du scandale, étant de la majorité, étant de la majorité. Avec sa barbe et son teint pâle, ses cheveux pendant sur le cou, ses cheveux pendant sur le cou. Son vieux blue jean et ses sandales, il paraissait vraiment dans le coup, il paraissait vraiment dans le coup. Méfions-nous, les flics sont partout.
Méfions-nous, les flics sont partout.
Il m'entraîne à tout feu, tout flamme, à une grande manifestation, à une grande manifestation. De celle qui rassemble à Paname la fine fleur de la nation, la fine fleur de la nation. Allons faire la révolution, s'écrit mon étrange quidam, s'écrit mon étrange quidam. Foutons les banquiers au violon, foutons le feu à Notre-Dame, foutons le feu à Notre-Dame. Où, méfions-nous, les flics sont partout.
Où, méfions-nous, les flics sont partout.
On va faire chanter le plastique aux oreilles du grand patron, aux oreilles du grand patron. Rugiment barbu frénétique, en fouillant dans son pantalon, en fouillant dans son pantalon. Devant le peuple médusé, il n'en sortit qu'un étendard, il n'en sortit qu'un étendard. On rigolait à l'Élysée, c'était râpé pour le grand soir, c'était râpé pour le grand soir. Où, méfions-nous, les flics sont partout.
Où, méfions-nous, les flics sont partout.
Voyant sa tactique faillir, v'là qu'il m'invite à boire un coup, v'là qu'il m'invite à boire un coup. Dans sa chambre pour mieux saisir la pensée de Mao Tse-Tung, la pensée de Mao Tse-Tung. Dieu seul sait quel fut mon supplice quand je lui grimpais sur le dos, quand je lui grimpais sur le dos. Mais pour une fois que la police, on peut la baiser comme il faut, on peut la baiser comme il faut. Où, méfions-nous, les flics sont partout.
Où, méfions-nous, les flics sont partout.
L'assaut fut sans doute si rude qu'il partit les jambes à son cou, qu'il partit les jambes à son cou. En qualifiant mon attitude de trop avant-garde à son goût, de trop avant-garde à son goût. Depuis qu'on sait son aventure jusqu'au revers de la médaille, jusqu'au revers de la médaille. Il paraît qu'à la préfecture, il y a des volontaires en pagaille, il y a des volontaires en pagaille. Méfions-nous,
les flics sont partout.
Ouh, ouh, méfions-nous, les flics sont partout. Ouh, ouh, méfions-nous, les flics sont partout.
Autre problème important, et peut-être tu voulais venir, mais je pense que ça vient assez naturellement, on a très vite adopté un principe qui était celui de ce qu'on appelle, nous, la neutralité comportementale. Parce que tout ça, en gros, rien n'était écrit. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait avec le labo du CNRS, au départ, était un travail très, très technique. Tout. Daniel Bézerlang le raconte beaucoup hein, quand on parle de l'Observatoire. Au début, on avait des comptes rendus manifs qui étaient des cases à remplir, nombre de cartes, nombre de machins. Puis, il y avait une petite case en bas du compte rendu qui était commentaire.
Observation.
Impression.
Ou impression. Alors, en bas, on rajoutait, putain, ils étaient nombreux, les flics aujourd'hui, ou je sais pas quoi, ou tiens, il n'y avait pas les gendarmes mobiles. Enfin, ouais, c'était des choses comme ça. Puis, plus ça avançait, plus moins la partie purement descriptive était grande. Aujourd'hui, elle fait, dans nos comptes rendus, 10 lignes. Mais il y a tout dans ces 10 lignes, hein. Le nombre de compagnies de CRS, de gendarmes mobiles, ce qu'on a vu, le nombre de policiers, enfin, tout y est, hein, tout. Mais derrière, eh ben, il y a 5, 7, 8, 10 pages de commentaires, en fin de compte, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté et ce qu'on doit en déduire au regard de l'expérience qu'on a du suivi des manifestations. Et la neutralité comportementale, elle s'est imposée d'elle-même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes présents lors d'une manifestation, premièrement, nous ne sommes pas manifestants, nous ne sommes pas avec les manifestants. On peut y être de cœur, c'est pas le sujet. Personne, les policiers comme tout le monde, sait très bien que nous sommes par ailleurs des militants associatifs, syndicaux, politiques. Mais quand on met notre tenue identifiante, nous sommes pas manifestants. Nous sommes donc sur les abords de la manifestation, sur le côté, devant, derrière, quelquefois au milieu de la manifestation quand il y a des heures pour aller saisir ce qui se passe. Mais notre, fondamentalement, nous ne sommes pas, nous ne reprenons pas les slogans. Nous n'insultons pas la police. Et Dieu sait si la réciproque n'est pas vraie. On a des preuves multiples d'insultes des policiers envers nous. Nous sommes obligatoirement vêtus de notre chasuble jaune et bleu. Alors le choix de la chasuble, quand on l'a fait, c'était assez amusant parce qu'on s'est dit il faut qu'on soit identifiable au premier coup d'œil. Il faut que même ça soit visible. On s'est dit, bon, on va prendre des chasubles rouges, non, c'est la CGT, des oranges, non, c'est la CFDT, etc. Après une recherche dans le monde des vêtements de travail, on a identifié des chasubles jaunes et bleus, et dont on avait absolument jamais vu la trace dans une manif, avec des poches et trucs comme ça, et tout. On s'est dit, tiens, c'est ça
c'est
qu'il
commode.
Faut... C'est commode. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on prenne, comme ça, et tout. Et c'est marrant parce que le côté jaune, on n'avait pas anticipé qu'il allait avoir le mouvement des bientôt, gilets jaunes, ouais. Après, bien évidemment. Bon. Mais c'est jaune et bleu. Et donc, on a toujours la chasuble, et on déclare notre présence en préfecture, conformément à l'accord, ce qu'on répète d'ailleurs tout le temps. Hein, on n'est pas là, etc. Et donc, cette neutralité comportementale, elle est au cœur de notre travail. Neutralité comportementale ne veut pas dire neutralité politique, mais on y reviendra dans l'analyse après. Donc cette neutralité, on y tient énormément et on évite beaucoup, même si c'est un peu frustrant par moment, d'aller se mettre au milieu des manifestants pour tchatcher avec des potes, pour des trucs comme ça. Il y a toujours un observateur pour rappeler à l'ordre l'autre observateur qui se laisse un peu aller.
C'est jamais le même.
Hop, observateur sur les trottoirs, enfin, etc. On est toujours. Puis d'autre part, un des avantages, bien sûr, d'être externalisé par rapport à la manifestation, c'est qu'on voit, on élargit notre
champ de vision, d'ensemble.
Bien évidemment. Oui. Et en particulier, on peut voir à la fois le comportement de la police et le comportement des manifestants. Chose qui est importante parce qu'il y a une interaction entre les deux. On ne peut pas dire tout. Donc, cette chose-là est aussi importante, bien évidemment.
Oui, c'est un vieux principe des sciences sociales, de la sociologie en particulier, de dire que si l'observateur n'est jamais neutre, c'est la démarche et les outils qui le sont, ou qui construisent du moins la neutralité. On ne connaît pas un observateur qui ne pense pas quelque chose a priori sur l'objet qu'il observe. Par contre, c'est la rigueur. C'est pour ça que la question de la rigueur, c'est peut-être ce qui caractérise quand même de manière assez forte l'observatoire, c'est la rigueur de la démarche et les outils utilisés, critiqués, remaniés en permanence, qui permettent de construire un rapport un peu objectivé et entre guillemets neutre à l'objet qui est considéré. Voilà.
Et je dis souvent, j'aurais aimé trouver un meilleur acronyme, mais ça s'appelle la méthode ODAR, j'appelle ça. Alors c'est vrai que ça ne sonne pas très bien, mais c'est observer, documenter, analyser, restituer. C'est vraiment le profil de notre démarche qui tient en ces quatre verbes qui ont tous leur importance et leur et la logique et une forme de logique dans leur déroulé. Donc c'est effectivement donc observer c'est fondamental. C'est le premier, c'est le rôle premier de l'observateur des pratiques policières. C'est ça s'appelle un observateur, c'est pas un hasard. Et donc voilà, voilà comment on peut déjà définir notre travail de terrain.
Donc je vous cite et je complète sur la forme que prend l'OPP. Nous serons dans le périmètre des éventuelles actions pour observer, documenter, analyser le comportement des forces de police et de gendarmerie, informer les personnes participantes à ces rassemblements, alimenter le débat d'intérêt public sur les pratiques de maintien de l'ordre, identifier les éventuelles dérives. Donc là, c'est la seconde partie avec analyse et rendu d'observation et peut-être proposition.
Sur ce travail donc, de documentation, de restitution, d'abord, effectivement, les uns et les autres, on s'est beaucoup formés. On avait une connaissance de la police en manifestation, qui était une culture militante. D'accord. Le fait de rentrer dans l'observatoire nous a fait basculer dans une autre démarche qui est celle de nous interroger sur la police en elle-même. Alors quand j'ai en police, c'est le terme générique, hein. Ça inclut la gendarmerie aussi, hein, et tout. Donc on a beaucoup lu, beaucoup réfléchi, beaucoup échangé sur la police, d'où elle vient, qui elle est, quels sont ses fondements. On est très 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 attentif à ce qui se passe sur les rapports incestueux, le terme n'est pas trop fort, entre les ministres successifs de la police et les syndicats de policiers.
Oui, donc, les premiers flics de France.
C'est absolument énervant, hein, cette notion de premiers flics de France. Ils leur prennent tous les uns après les autres. On étudie la continuité, bien évidemment. On voit passer les ministres. On a eu Manuel Valls, on a eu Cazeneuve, on a eu Castaner. On a Darmanin aujourd'hui.
L'ineffable
Monsieur Darmanin m'a fait reprendre un policier un jour lors d'un contrôle. Quand je parlais de Darmanin, il m'a dit, on dit Monsieur Darmanin d'abord. Il m'a dit, le policier, d'un air énervé. Et donc, on étudie la continuité qu'il y a aujourd'hui, qui est très inquiétante, et on en reparlera sur le fond sans doute, aujourd'hui, dans la manière dont la France, le pays et l'État s'appuient et gèrent la police et les forces de l'ordre, comme on dit en général. Il y a beaucoup de questions à se poser. Donc on travaille beaucoup, on s'est énormément cultivé sur ce sujet-là. On a beaucoup été attentifs, ce qui nous a permis, par exemple, de décortiquer le nouveau schéma national du maintien de l'ordre qu'a proposé Darmanin. On a, dans les jours qui ont suivi sa parution, on l'a décortiqué de A jusqu'à Z, et on a pu les décortiquer très vite parce qu'on avait acquis cette culture et cette connaissance de cette institution policière qui est absolument indispensable à être autre chose que de simples observateurs qui gémissent, qui prennent des photos, ils sont méchants ces policiers, quoi.
Oui, c'est là aussi c'est partie prenante de la rigueur scientifique. Quand on fait de la recherche, une partie du travail de recherche, c'est aussi se documenter sur ce qu'écrivent les autres de l'objet qu'on est en train de travailler, de façon très très pragmatique. On peut se dire que, par exemple, on a une liste interne entre les membres de l'observatoire dans laquelle circulent en permanence des références à des articles, à des numéros de revue, qui permettent d'avoir une espèce de mise à jour permanente pour les membres de l'observatoire sur l'objet sur lequel on travaille.
Absolument. Donc on travaille beaucoup, en fin de compte.
Pas faux.
Mais vous êtes à la retraite, non?
C'est intéressant d'en leur parler parce que, effectivement, l'Observatoire des pratiques policières n'est imaginable que parce qu'il y a des bénévoles, bien évidemment, qui y passent du temps. Et ceux qui y passent le plus de temps, soyons objectifs, c'est effectivement les retraités.
C'est nous.
C'est nous, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que on a le temps et qu'on a choisi de faire.
Il y a d'autres retraités, juste à dire. Nous avons d'autres retraités dans l'observatoire.
Oui, c'est ça, il n'y a pas que nous deux. Il n'y a pas que les deux présents ici. Il y a d'autres retraités, puis il y a aussi, bien évidemment, des salariés, des camarades qui travaillent et qui consacrent eux aussi un temps non négligeable à ce travail-là, qui a besoin, pour être efficace, de continuité. C'est-à-dire, on ne peut pas s'amuser à venir observer deux manifs et repartir. L'observatoire, on s'en rend compte avec le temps, demande une forme de regard acéré. d'expertise, de savoir-faire, y compris comportemental. On vit quand même des manifs qui sont pas plan-plan. Hein, y a des périodes où c'est plan-plan. Entre les gilets jaunes et le mouvement social d'aujourd'hui, là, y a, avec la période Covid, il y a eu une période qu'on peut considérer pour nous, en tous les cas par rapport à ce qu'on a vécu, relativement calme. Ouais. On a
merci le Covid, là, pour le coup.
Ouais, le Covid nous a... Quoique, il y avait des choses à dire pendant le Covid. Bah,
c'est-à-dire que pendant le Covid, nous avons, de notre côté, monté un observatoire qui n'était pas sur les pratiques policières, mais sur les contrôles. Ouais. C'était, je veux dire, on est en permanence aux aguets, alors nous, en tant que LDH, à tous ceux qui portent atteinte aux libertés publiques et aux libertés individuelles. Mmh. Là, on avait un bel objet de travail aussi, voilà.
Absolument. Donc, si vous voulez, cette présence de retraités, bien sûr, alors on peut faire un clin d'œil par rapport à la loi travail, bien évidemment, et aux retraites, sur les retraites, les 2 ans de plus qu'ils veulent nous infliger auraient un impact notable sur la mobilisation des bénévoles qu'on trouve dans tout le milieu associatif, quelle que soit sa nature. Et tout. Donc, évidemment, c'est un temps choisi de notre part. On ne fait pas que ça, ni Jean-François ni moi, bien évidemment, mais on peut considérer que ça nous occupe, selon les périodes, un temps certain.
Donc, on a parlé de la forme avec l'identification, la fameuse neutralité comportementale. On aborde là le fond, cœur du sujet. Je te cite, Pascal, le maintien de l'ordre est quelque chose de très politique. On a commencé à citer quelques noms glorieux. Je vous fais écouter un son et vous réagissez juste après.
Pour nous, il y a 2 interrogations sur l'effet du maintien de l'ordre, enfin la gestion du maintien de l'ordre sur l'exercice des libertés fondamentales. La première, c'est dans quelle mesure toutes les pratiques qu'on voit de plus en plus et qui vont être confirmées législativement, donc les fouilles en amont, les interpellations préventives, etc., visent en réalité à empêcher les gens de manifester et donc d'exercer leurs droits. Et le second point, c'est dans quelle mesure finalement cet usage disproportionné des armes de force intermédiaires, la violence qu'on peut voir dans les manifestations, finalement ne va pas finir par inciter les gens à ne plus exercer leur droit de manifester par peur d'être grièvement blessés.
C'est normal que des gens se disent, réfléchissent avant de sortir dans la rue, quand ils se disent, mais en fait, si je vais à cette manifestation, je peux finir avec un œil en moins ou avec une main en moins. Donc oui, il y a des gens à qui ça fait peur, il y a des gens... Mais c'est un objectif politique de casser un mouvement, de l'arrêter.
Je suis convaincu que cette judiciarisation a pour effet de dissuader les manifestants de se rendre en manifestation. Mais c'est quelque chose que j'ai pu constater, spécialement avec les Gilets jaunes, où des personnes qui ont été interpellées une fois se disent « je reviens pas la fois d'après » et me le disent.
Il y a des responsables politiques ou des fonctionnaires en charge du maintien de l'ordre qui assument de dire que la répression, elle doit être dissuasive. Elle est faite pour être dissuasive. Ils iront même plus loin. Ils disent « si vous venez, vous êtes complice des blessures, des violences, des dégradations. » Donc ce langage-là, il est objectivement fait pour pas que vous veniez à une manifestation.
Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire, oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé, c'est pas nous, on porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée, savent qu'ils seront complices de ces manifestations.
Voilà, donc on vient d'entendre Castaner, époque gilet jaune. Donc, comme disait Jean-François tout à l'heure, c'est les mêmes mots, on mélange, on change un peu la représentation politique, et c'est strictement la même chose en tout cas.
Il y a des choses essentielles qui viennent d'être dites dans vos extraits d'interviews ou d'interventions de personnes. Je voudrais déjà prendre un tout petit peu de hauteur rapidement en disant que ce qui se passe dans la rue, au moment où les policiers frappent les manifestants ou interviennent pour faire du saut dessus et tout, ça rentre dans un continuum qui démarre avant la manifestation. Dans les cas les plus extrêmes, entre guillemets, des interpellations préventives de gens qu'on empêche de venir manifester. Alors ça peut être issu de trucs judiciaires, mais à une époque, il y a eu des assignations à résidence en préalable.
Manifestations, en fait.
Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un avant-manifestation qui est composé de dispositifs de militarisation de l'espace public avec des fouilles, de sacs, des contrôles au faciès, on va dire, c'est clair. Donc, il y a ce travail en amont-là. Et tout, qui est notable, qui est fort, et tout, qui déjà est un peu dissuasif.
Hein, et vexatoire.
Voilà. Et, oui, ouais, voilà, mais... piqueter une. Se faire fouiller le sac, tout. Ce qui me désole d'ailleurs un peu, c'est de voir le nombre de gens qui acceptent de se faire fouiller le sac sans rien dire, mais je pense que malheureusement, les habitués des concerts, aujourd'hui, vous savez, il est difficile d'aller dans un espace public sans se faire fouiller par des vigiles, malheureusement, hein, ça devient.
Rappelons hein par ailleurs que les vigiles n'ont pas le droit de fouiller des sacs. Mmh. Il n'y a qu'un officier de police judiciaire qui est habilité à fouiller un sac, puisque c'est comparable à une perquisition dans l'espace privé. Voilà, rien. Autrement dit, on est toujours dans des choses à la limite de la légalité. Et de ce point de vue-là, les vigiles privés, mais un certain nombre de policiers, se gênent pas trop pour enfreindre les lois et les règlements.
Donc il y a l'avant-événement, l'avant-manifestation. Après, il y a le pendant la manifestation. On vient d'en parler beaucoup, qui vont depuis les déploiements absolument gigantesques de forces de l'ordre jusqu'aux pratiques d'interdiction de facto de manifester avec des interventions intrusives dans les manifestations, comme on l'a vu encore dernièrement à Toulouse. Donc ça, c'est le volet pendant dont on vient de parler. Puis il y a le volet après, qui est là aussi, commence tout de suite après la manifestation par des fouilles. On refouille les gens derrière. On parlera peut-être à l'heure maintenant des marqueurs.
Ah oui, j'ai vu des nouvelles armes.
Qu'ils ont utilisées à Sainte-Soline. Là. Les fouilles après manifestation. Et puis surtout la judiciarisation. Jean-François disait tout à l'heure que la BAC, c'est une police pénale. Effectivement, il faut savoir que les CRS et la gendarmerie, normalement, c'est la police administrative. Alors ça peut faire sourire qu'on dit ça. C'est la police administrative. Eux, ils sont là pour sécuriser, pour permettre la libre...
le maintien de l'ordre.
Permettre le droit de manifester. Normalement, les policiers et les gendarmes sont là pour encadrer le droit de manifester, pas pour l'interdire. D'accord ?
Et voire de protéger les manifestants.
Et voire de protéger les manifestants contre d'éventuels automobilistes énervés, par exemple, qui viendraient heurter le cortège ou des choses comme ça. Donc, cette police pénale donc, de la BAC, qui fait donc de l'intrusion et du saut dessus pendant les manifestations et du flagrant délit, alimente les tribunaux. D'accord ? Donc il y a la phase qui suit la manifestation, qui est le troisième volet, en fin de compte, qui est celui de la judiciarisation. Avec, on n'a pas le temps de tout couvrir, hein, le PP, mais c'est vrai que peut-être ça viendra un de ces jours, mais la problématique des coopérations immédiates et de l'abattage, tout qu'on a spécialement vu à l'œuvre au moment des Gilets jaunes, jusqu'à en pleurer de rage, hein, quand on a vu les gens arrêter le samedi, passer le lundi en comparution immédiate et être envoyés directement à
prison, Seix, tout à fait.
Immédiatement, sur la base souvent de travail bâclé de la part de la police judiciaire, des procureurs et de l'ensemble de l'institution, avec des avocats qui faisaient ce qu'ils pouvaient, hein, la plupart du temps. Donc, vous voyez, il y a l'avant, le pendant, après, tout ça fait système.
On a documenté, je le rappelle parce que ça a quelques années, mais le système est à peu près le même. On a, pendant 6 mois, observé les comparutions immédiates au tribunal à Toulouse et on a sorti un bouquin qui s'appelle « Les comparutions immédiates » aux éditions RS à Toulouse, de l'observatoire à cette époque-là qui n'était pas des violences policières, mais sur les comparutions immédiates, où on voit très très bien le fonctionnement de ce qu'on appelle une justice d'abattage, dans lequel il vaut mieux être blanc, moyennement riche et assez conforme, parce que sinon ça coûte très très cher en termes de liberté individuelle.
Donc ce continuum est très important à saisir. Deuxième chose importante, bien évidemment, la peur. Alors on l'a mis en exergue dans notre premier rapport, parce que l'Observateur, bien sûr, fait des rapports, on en dira un mot tout à l'heure sur notre travail, comment on le restitue, mais dans notre premier rapport, qui a été rédigé à chaud, avec le recul nécessaire, mais à chaud quand même, on l'a sorti, le 19 avril 2019, donc après 4 mois des Gilets jaunes, et on l'a sorti à ce moment-là sous pression de la part, y compris des gens qui nous voyaient dans la rue et qui nous disaient « mais on vous entend jamais parler, ou qu'est-ce que vous faites, quand est-ce que vous voulez dire ce que vous avez observé, enfin, etc. » Il y avait une pression très forte, qu'on a admis d'ailleurs, assez logiquement d'ailleurs, etc. Donc quand on a publié ce rapport en avril 2019, on fait une part importante à la leçon de la peur, parce qu'on l'a constaté. les gens, on va dire les gens en termes globalisants, mais enfin dire en gros, les gens ont peur aujourd'hui de venir manifester. Alors ça, c'est pas un discours général, c'est ce qu'on constate chez nos amis, nos copains, nos proches, qui nous disent, moi je vais plus manifester parce que j'ai pas envie de me faire éborgner, pas envie d'en... les gars je supporte plus. On a même des observateurs qui quittent les manifestations, qui viennent parce que ça leur tient à cœur de venir, mais qui quittent les manifestations dès que ça chauffe, parce qu'ils n'assument pas, et ça se comprend, hein, la situation de violence qui est imposée par les dispositifs de maintien de l'ordre. Donc cette notion de peur, elle a un objectif. Ça, c'est clair, je pense que je peux le dire sans politiser à outrance notre truc, c'est de vider les rues des manifestants. Et je suis d'ailleurs toujours admiratif, et on l'était au moment des Gilets jaunes, que de voir, malgré la répression, mais sans limite qu'il y a eu de ce mouvement, les gens continuaient quand même à venir manifester. Et cette particularité des Gilets jaunes, qu'on revoit un peu au moment de la loi travail, de la loi retraite, qu'on a vu au début quand même dans les manifestations des Gilets jaunes, les manifestants scandaient la police avec nous. C'est là, pour beaucoup d'entre eux, c'était des néo-manifestants, des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui n'étaient pas issus des milieux syndicaux, politiques et tout, la population des ronds-points, hein, comme on a tout qu'on connaît bien, hein, parce que certains d'entre nous y avons passé du temps avec eux, hein, sur les ronds-points, pour comprendre aussi ce qui se passait. Et donc, si vous voulez, ces gens-là ont été complètement effrayés, étonnés, surpris, etc. Et en fin de compte, pour certains nombre d'entre eux, se sont adaptés à ce moment-là, en disant, mais si on vient et que j'en prends plein à la gueule, eh ben, étant donné qu'on veut que je vienne plus, je vais venir équipé. Alors équipé, ça veut dire quoi? C'est pas venir avec des cocktails Molotov et des boulons avec des lance-pierres. C'est venir avec un masque à gaz, avec un casque, avec de quoi se protéger contre l'effet des gaz, et tout ça. Donc, si vous voulez, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu autant de gens casqués dans les manifestations, etc., ou protégés, etc. Et les policiers ont considéré que c'était une forme de subversion ou d'attitude subversive que venir protéger en manifestation, que nini, c'est simplement du bon sens de toute personne un peu prélucide qui se dit qu'il y a des gaz lacrymogènes et que je veux continuer à exprimer calmement mon droit à manifester, il faut que je me protège, sans ça je viens plus en manifestation. Et avoir autant de manifestants dans les rues avec ce qui se passe dans les rues, c'est assez étonnant. Ça veut dire quand même que ils n'ont pas encore récuré le mouvement social jusqu'à l'os.
Je pense que ce que dit Pascal c'est important là, parce que quand on regarde la presse mainstream, quand on essaye de suivre un peu les actualités, moi, je dois avouer que ça m'est assez insupportable, une espèce de rituel maintenant un peu grotesque dans lequel, en gros, on ne peut s'exprimer ou on ne pourrait s'exprimer, et les hommes politiques sont en permanence confrontés à ça, mais pas que, sous la condition qu'il faudrait renvoyer dos à dos la violence des manifestants et la violence des policiers. Si vous regardez un peu la télé, ça m'arrive de temps en temps, même si c'est pas très bon pour ma santé mentale, on voit les journalistes, dans le meilleur cas des journalistes institués, procéder à ce genre de choses. Mais vous condamnez la violence des manifestants comme si c'était la même chose. Alors, on peut, et je suis pas sûr qu'à l'intérieur de l'Observatoire, d'ailleurs tout le monde ne soit à 100% complètement raccord là-dessus, mais c'est pas du tout important, on peut condamner d'une certaine manière toute violence dans l'absolu, comme ça, hein. Mais ce qu'il y a d'à peu près sûr, et tout le travail qu'a pu faire l'Observatoire, et depuis des années le travail d'observation, montre que cette espèce de renvoi dos à dos est faux et politiquement pervers. En amont de l'Observatoire des pratiques policières, quand on a rencontré les gens de Sivens à l'occasion de l'enquête qu'on a fait sur la mort de Rémi Fraisse, hein, qu'est-ce qu'on a entendu? On a auditionné les gens présents. On n'a pas eu accès, bien entendu, à la police. On n'a jamais accès à la police, qui n'a accès qu'à elle-même. Et on avait en face de nous des gens qui disaient, voilà, nous, on s'est mobilisé de manière excessivement en violence, et c'était le cas, on a pu le vérifier x fois. Et à un moment donné, la violence est montée, et il était important que des gens nous protègent. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a à la fois au niveau politique, une fermeture de tout ce qui peut ressembler à quelque chose de l'ordre d'un débat et d'une négociation, et le fait que sur le terrain, en amont, pendant et en aval, comme l'a décrit Pascal, on durcit le ton, on est dans la répression, voire on est dans la criminalisation du mouvement social. Qu'est-ce qu'on construit à terme sur le terrain, si ce n'est de la violence, qui semble illégitime et qui pourtant est construit par la situation. Il y a une différence majeure entre manifestant qui, à un moment donné, pris dans la violence à laquelle il est confronté, va avoir un comportement qui est un bon comportement violent, et en face de lui, des gens dont, quand on voit l'équipement quand même, hein, je veux dire, peut-être que les gens qui ne sont pas habitués aux manifestations ou en étant un peu au contact des forces de l'ordre ne mesurent pas ce que c'est qu'un flic aujourd'hui équipé pour une manifestation. C'est un Robocop qui commence à avoir de moins en moins d'humanité. Hein, je veux dire, on est dans l'exosquelette massif. Hein, voilà. Qui, confronté à ça, se fait casser la gueule. C'est pas, d'une certaine manière, étonnant. Expliquer ne justifie pas, malgré ce que peut a du mal à comprendre quelqu'un comme Manuel Valls, mais on peut très bien analyser ce qui se passe sur le terrain en termes de violence, qui permet de dire non, il ne s'agit pas de la même chose d'un côté et de l'autre. Voilà, je suis un peu long là-dessus, mais je trouve que c'est important, parce que sinon d'emblée, hein, on est dans le 50-50. Hein, on n'est pas dans le 50-50. On est dans un processus complexe, construit avec des responsabilités qui ne sont pas partagées à égalité entre les uns et les autres.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière. Le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non. Dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ses compagnons qui le charronnent à la nation. En ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai la preuve par cas. S'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste.
Oui, je pense qu'on est dans la simplification du discours politique. On parle de choisir son camp. Effectivement, il y a cette notion de peur, clairement, d'introduire la peur chez l'autre par le marquage des corps, réellement. On a entendu Castaner il y a 3 ans, en fait, et c'est strictement le même discours qu'a Monsieur Darmanin actuellement, sur l'idée de recours à la force légitime légale de l'État. que l'État a le fameux monopole de la violence légitime. Oui. Une nouvelle fois, on est sur des éléments de langage que tout le monde peut utiliser sans vraiment...
sans avoir lu Max Weber,
voilà,
par
c'est
exemple.
Ça. tout en
bon allemand.
tout en le citant, c'est vieux comme Max Weber, comme dirait M. Darmanin.
Oui, je suis pas sûr qu'il l'ait lu.
Oui, mais il le cite.
Oui, à ça.
La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber.
Conceptualisé par le sociologue allemand en 1919, la violence légitime de l'État de Max Weber a été détournée de son sens originel, explication, souvent repris pour justifier l'usage de la force par la police et les répressions armées des manifestations. Le concept décrit par Max Weber dans une conférence en 1919.
L'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime.
Est en réalité très éloigné de l'interprétation qu'ont pu en faire des politiques et des journalistes. Quand Max Weber parle de violence légitime, il en fait une description sociologique. Il décrit ce qui est et non pas ce qui doit être. Max Weber théorise comment se sont constitués les États en tant qu'entité politique. C'est une définition des pouvoirs de l'État, pas une justification de la violence envers le peuple. Max Weber explique que l'État se substitue aux autres instances de pouvoir. Contrairement aux multiples autorités de l'époque féodale, église, roi, ville libre. En somme, c'est une définition de la souveraineté moderne. Mais au fil des ans, ce sens premier s'est effrité. Le terme légitime est aujourd'hui utilisé comme une justification, une nécessité, et non comme une possibilité, un constat, comme l'entendait Weber.
Max Weber nous donne donc une clé d'interprétation des propos récents du ministre de l'Intérieur sur l'opposition politique, les manifestations et les activistes écolos. Se donner des ennemis intérieurs, désigner des groupes comme séditieux et violents, c'est un besoin vital pour l'État. Il faut effrayer le reste de la population pour qu'elle soit encline à lui concéder le monopole de la violence légitime, et ainsi renforcer la légitimité de l'État.
Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un État de droit.
Donc retenez que la formule de Weber est une définition de l'État, une définition sociologique de l'État qui s'appuie sur le processus qui a vu naître l'État moderne. Weber ne se demande pas si la violence de l'État est légitime, mais comment il s'y prend pour que ses citoyens continuent à croire qu'elle l'est. Or, parfois, la croyance collective en la légitimité de la violence d'État, même légale, même proportionnée, diminue. Par exemple, au hasard, lorsqu'une grande majorité de la société soutient un mouvement social, y compris parfois certaines de ses dégradations. La police qui réprime un tel mouvement apparaît alors comme une milice privée au service d'intérêts particuliers. Donc, message final aux différents cuistres qui font référence à Weber, cette citation ne peut pas servir à justifier des violences policières inacceptables. C'est un contresens.
Voilà, on est bien dans l'idée de la fabrique de la peur.
Mmh. Ah oui, alors, la dernière intervention est absolument marquante à ce sujet-là, et peut s'appliquer très clairement à ce que nous venons de vivre à Sainte-Soline. Je m'explique. Bon, nous sommes en train de rédiger le rapport de Sainte-Soline avec 5 observateurs venus de toute la France, donc on a un travail de coordination entre nous qui est assez gigantesque, qui fait qu'on va prendre du temps pour sortir ce rapport, mais je peux déjà dire des choses qui pour l'instant n'engagent que moi, bien évidemment, mais je pense pouvoir parler de manière pas spécialement décalée par rapport à mes amis de l'observatoire. Et je me suis interrogé depuis quelques jours sur la notion de légitimité et de légalité. Etc. Et par exemple, on va prendre le cas de Sainte-Soline pour parler de ça. La préfète de Poitou, des Deux-Sèvres, et la gendarmerie, l'armée en l'occurrence, moi je préfère parler de l'armée d'ailleurs, à Sainte-Soline, étaient dans une forme de légalité. Parce que ils ont pendu des arrêtés, il y a les procureurs qui sont intervenus, qui ont fait des réquisitions, enfin l'ensemble des choses, donc avait une forme légale. Pour autant, ce qui s'est passé à Sainte-Soline de la part de l'État et de l'armée était-il légitime? au sens où on l'entend un peu couramment, hein, quelque chose qui fait qu'il y a une forme de d'acceptation d'une chose comme étant partagée à peu près par tous. D'accord ? On peut s'interroger.
Sans qu'on ait besoin de la force, d'ailleurs. Ouais. On en est convaincu.
Voilà. À l'inverse de ça, les manifestants et manifestantes qui sont nés à Sainte-Soline étaient indéniablement, au sens strict du terme, dans l'illégalité. D'accord ? Puisqu'ils participaient à une manifestation qui était interdite.
Explicitement interdite par la
préfecture. On le savait. D'accord ? Pour autant, n'en était-il pas moins légitime dans cette action ? Alors, pourquoi je mets en avant la légitimité des autres ? Parce qu'on ne peut pas s'extraire à ce moment-là de la notion d'intérêt général et d'intérêt particulier. D'accord ? Ce que la police et l'armée ont défendu à Sainte-Soline, ce sont des intérêts particuliers. L'intérêt particulier de quelques agriculteurs de la FNSEA qui, avec ses bassines, ses trous, ont pillé. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je n'ai pas de langage excessif en disant cela. Hein. Le consensus scientifique est clair autour de ce que c'est que les bassines. C'est pomper dans les nappes phréatiques, dans un bien commun, pour stocker une eau qui est, va profiter à un intérêt particulier, celui de maïsculteurs, qui vont faire donc pousser du maïs, qui va servir même pas à nourrir la population, qui va servir à fabriquer du plastique, qui va servir à l'export, qui va servir
à l'élevage,
ouais,
aussi.
Et, mais qui ne va pas servir à nourrir la population, d'accord ? Donc premier point, la police et, et l'armée, ce jour-là, ne défendaient-ils pas un intérêt particulier ? Par rapport à des manifestants qui, eux, on peut le penser sans trop exagérer, défendaient plutôt l'intérêt général. C'est-à-dire la défense d'une ressource qui nous appartient sous, qui est en train donc d'être privatisée par certains pour un usage particulier. Donc ce travail, vous voyez, cette réflexion autour de intérêt particulier, intérêt général, légalité, illégalité, légitimité, illégitimité, mérite véritablement d'être posé et peut s'appliquer à plein d'endroits aujourd'hui, en particulier dans le fond de sauce dans lequel on vit, qui est absolument inquiétant, qui est celui du réchauffement climatique et de l'ensemble des désordres qui existent aujourd'hui sur la planète pour cause de l'activité humaine, en particulier la biodiversité. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'autres choses là. Donc il y a un vrai débat de fond à avoir au-dessus. De quel côté se situe la légitimité ?
Oui, il me semble que à ça, il faut ajouter, enfin, ou du moins un autre angle d'éclairage concernant cette question-là. C'est la question de la alors on prend vraiment du recul par rapport à la question des violences policières, mais en même temps les violences policières ne sont que l'indicateur de quelque chose qui d'une certaine manière les surdétermine. S'il y a autant de violences sur le terrain, c'est parce qu'en amont les fonctions de régulation politique n'ont pas joué leur rôle. On l'a vu à Sivens, encore une fois, on le revoit à Sainte-Soline. Qu'en est-il aujourd'hui de la légitimité de la décision publique au regard de choses qui sont prises, de décisions qui sont prises et qui engagent au-delà des gens qui, d'une certaine manière, sont directement intéressés, c'est-à-dire les politiques et les lobbies. Je vais le dire de manière un peu triviale. On a vu ça à Sivens, hein. On crée un barrage d'irrigation. C'est marrant, façon de dire, hein, l'écho, hein, la concordance des temps qu'il peut y avoir autour de ça. Hein. Et alors qu'il y a des intérêts directs privés d'un certain nombre d'agriculteurs fédérés dans une grande association professionnelle qui a un lobbying qui est dénoncé maintenant de plus en plus explicite de manière auprès des élus. Et en face de ça, on a des gens qui disent en gros cette décision nous engage à tous, pas que les gens de l'endroit et pas que notre génération. C'est-à-dire que elle engage les années qui viennent, les enfants et les enfants de nos enfants. Voilà. Et là, on a un désajustement sur les modalités de prise de décision publique, puisque la manière dont les décisions sont prises sont plutôt dans le premier registre que dans le second. Et que dans la mesure où on ne veut pas bouger de ces modalités de prise en charge, ce que je suis en train de dire, en gros, c'est qu'on est, ce n'est que le produit d'un processus de crise de la décision démocratique. On produit de la violence et les violences policières s'inscrivent complètement dans ce genre de choses-là. Et on peut, à ce moment-là, poser la question que pose Pascal, où est la légitimité ? Au-delà de respect d'un certain nombre de textes dont on sait, alors moi je fais partie d'une association qui s'appelle la Ligue de défense des droits de l'homme et du citoyen, et je vais dire un truc énorme, dont on sait que les droits ne sont que le produit des rapports sociaux qui les surdéterminent, pour le dire en langage un petit peu autrement dit, la loi c'est une manière de s'entendre sur un certain nombre de règles qui vont faire qu'on va vivre ensemble. Et on peut quand même imaginer que ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est extrêmement important tout l'enjeu d'observer, de contrôler et de donner de l'intelligence à la situation, et c'est ça tout l'enjeu des restitutions de l'observatoire, c'est aider les citoyennes et les citoyens à avoir un petit peu d'intelligibilité sur les situations qui les déterminent, y compris dans leur vie quotidienne. Voilà. Et si ça tape aussi fort, et si le ministre de l'Intérieur a beaucoup de mal à accepter le regard critique des citoyens, et si les élus, et si le président de la République, comme on l'a vu dans la situation, dans la citation que vous évoquiez, au passage là, on a un magnifique mélange et un tour de passe-passe macronien entre d'une part une conception républicaine de la police qui serait censée protéger les citoyens, et le fait que dans la réalité, c'est l'inverse qui se passe. Voilà. Les violences policières, aujourd'hui, elles signent aussi une crise politique beaucoup plus large que la manière dont les choses se passent sur le terrain.
Et un petit exemple assez amusant, la saillie, si je puis m'exprimer ainsi, de Darmanin autour de la Ligue des droits de l'homme, excusez-moi, était en réponse avec à la question d'un sénateur. Alors, deux mots sur ce sénateur.
Monsieur Bonhomme.
Il s'appelle François Bonhomme. C'est un sénateur du Tarn-et-Garonne. Et c'est aussi le sénateur qui a sur son territoire le projet. Oui, il est maire de Caussade, pris dans la communauté de communes, je crois aussi.
Oui.
Et bon, pour des tas de raisons, je connais bien. Sur le territoire de Caussade, il y a un projet très controversé qui a été fait de manière totalement illégale d'une retenue d'eau. D'accord, pour servir les intérêts de quelques agriculteurs toujours autour de cette fameuse culture du maïs.
Ce n'est pas un projet, c'est une réalité.
C'est une réalité. Donc il a été fait de manière illégale. Et c'est pas un hasard, votre compte, que ce soit François Bonhomme qui intervienne et qui est un sénateur des Républicains et qui intervienne pour dire mais les séditieux là autour de Sainte-Soline qui ont pour nom Ligue des droits de l'homme, etc. Vous ne faudrait pas couper les subventions publiques auxquelles ils ont droit, enfin auxquelles ils ont accès, etc., etc. Et c'est pas hasard que c'est cet homme-là qui ait posé cette question puisqu'il est l'expression vivante de l'expression des lobbies de l'agriculture et les FNSEA en particulier. Donc je ferme la parenthèse là-dessus, mais les choses ne viennent pas toujours de nulle part. Donc ça, le premier point. Et concernant effectivement cette notion de légitimité, elle est importante parce que quelque part, moi, à Sainte-Soline, les gens qui étaient présents à Sainte-Soline, donc nous l'avons observé. Et à Sainte-Soline, c'était très important parce que il fallait qu'on porte un regard un peu acéré sur le déploiement policier, mais sur aussi qui étaient ces manifestants, parce que c'est notre rôle. Alors, j'en dis un mot tout de suite là-dessus. On n'observe pas les manifestants, c'est pas l'objet premier. Il y a assez de journalistes mainstream, assez de policiers.
Et de policiers aussi.
Assez de trucs pour les observer, les manifestants, pour les ficher, les regarder et tout. On n'a pas besoin de nous pour savoir ce qui se passe dans les manifestations. Si nous observons les manifestants, c'est parce que nous regardons l'interaction qu'il y a entre les déploiements policiers et de gendarmerie et les manifestants. On regarde pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe, pourquoi les policiers réagissent comme ça, à quel type de menaces sont-ils confrontés, bon, etc. On a regardé. Et quand on regardait les gens, l'ambiance, en gros, qui a précédé la manifestation de Sainte-Soline, ça m'a beaucoup frappé. On sentait les gens qui allaient manifester en sachant qu'il y allait avoir des incidents. Personne ne se faisait d'illusions. Pourquoi ? D'abord, il y avait un précédent, c'était la manifestation d'octobre 2022, où les manifestants avaient réussi à rentrer sur la bassine. D'accord ? Donc, effectivement. Et les gens qui étaient à Sainte-Soline, on le voyait, étaient des gens qui étaient, comme on dit aujourd'hui dans le langage un peu moderne, ils étaient déterminés. C'est-à-dire, les gens qui marchaient dans cette manifestation allaient vers la bassine dans l'objectif espéré de rentrer sur la bassine. dans ce trou là.
On peut rappeler ce que c'est une bassine.
Ouais, parce que, alors, une bassine, donc c'est une. Je voulais vous dire le terme officiel utilisé par les militaires dans leur rapport. C'est une. Je ne retrouve pas. Enfin, c'est un euphémisme extraordinaire. Il me reviendra peut-être tout à l'heure. En tous les cas, c'est de une retenue entièrement construite, donc qui n'est pas creusée dans le sol, hein, qui est créée en élévation avec des merlons périphériques en terre et puis un revêtement étanche. On va pomper l'eau dans la nappe pour la mettre dans ce réservoir à l'extérieur, pour aller après pomper dedans, dans les périodes. Donc on est censé pomper dans les nappes quand il y a de l'eau, en période hivernale, pour utiliser cette eau qui est mise à l'extérieur pour aller arroser pendant la période d'été.
Ouais, il n'y a pas d'infrastructure, c'est
il n'y a pas de bâtiment, tout, c'est un tas de terre.
Au milieu de nulle part, au milieu de champs.
Ouais,
et une pompe.
Et des pompes et du réseau hydraulique souterrain. Ouais, et d'abord, quand on voit ça, bon, on dit c'est un trou, quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont défendu? Un trou, ouais. la police. Bon.
C'était la même chose aussi, Ben, ce passage.
Et eux,
il y avait un bois.
Et il y avait deux bulldozers qui traînaient dans ce coin.
D'ailleurs, quand on regarde le parcours qu'a fait la manifestation à Sainte-Soline avant d'arriver sur le site, c'était pas une balade spécialement bucolique. Hein. C'était au milieu d'une petite voie départementale et à droite et à gauche, on avait que des immenses champs sans âme, sans rien. C'était tout sauf un paysage bucolique. C'est le paysage que produit l'agriculture intensive, d'ailleurs, hein, au passage. Donc on était dans le jus d'emblée, si je puis dire. Et quand on voyait donc les manifestants, on voyait que c'était des gens qui étaient déterminés. Mais en même temps, je le ressentais. Alors je vous le dis, je l'ai ressenti sur le moment. Je l'ai aussi ressenti après. Les gens, visiblement, ont ressenti une forme de légitimité à être là. Il y avait donc la détermination, mais la détermination que peut donner ce qu'on pourrait appeler le bon droit. Les gens savaient qu'ils allaient vers quelque chose, mais qu'il leur semblait que ce qu'ils faisaient était juste.
Juste, ouais, c'est le terme.
Hein, c'est véritablement, on ressentait ça, avec toute l'ironie qui va avec, d'ailleurs, vers certains côtés. Moi, je me marrais de voir que la tête du cortège que moi, je suivais en tant qu'observateur, que je précédais d'ailleurs en l'occurrence, était fait par des bouées de canards, de trucs comme ça. Il y avait une ironie en disant « on va aller se baigner dans la bassine ». Enfin bon, il y avait toujours ce doigt de recul qui, moi, me plaît personnellement, qui est un peu l'ironie et la prise de distance qui est importante. Hein. Donc c'était tout sauf des guerriers armés de haches, harnachés pour le combat violent et tout. C'était faux. La description que fait le ministre de l'Intérieur est absolument fausse. Elle ne résiste pas à l'analyse de ceux qui étaient sur place. Faut quand même avoir l'idée, parce que le discours en disant « ils ont des haches », c'est un discours qui renvoie à des barbares, bien évidemment, en termes souvent employés, etc. Vous savez, en faisant une espèce de référence aux séries vikings qui font beaucoup le florès sur les chaînes câblées aujourd'hui et tout, avec c'est très tendance, hein, les séries vikings. Et donc, l'image des haches et tout ça montre que c'était des espèces de barbares hallucinants qui allaient pour hacher menu nos braves gendarmes, qui n'étaient ces pauvres chéris. Donc,
pour tuer, parce que souvent, il y a l'utilisation de ce vocabulaire qui est quand même... On veut tuer les forces de l'ordre.
Oui, donc, première chose, donc, cette manifestation sentait quand même un peu en elle-même, je suis sûr que bien évidemment, si les policiers, les gendarmes ou le chef de la gendarmerie ne diraient pas la même chose, mais sentait pour moi une forme de légitimité, on sentait une forme de détermination un peu sereine et inquiète hein, quand même, mais tout. Personne ne pensait aller franchement vers la boucherie qui a attendu les manifestants à Sainte-Soline. Je parle de boucherie, pas par hasard, hein, d'accord, mais on y reviendra peut-être sur le déroulé même des opérations. Mais globalement, donc, cette IGTL s'est exprimée et elle repose sur l'analyse qu'on peut tous faire, on en parlait tout à l'heure, du pillage des ressources naturelles, de la catastrophe climatique qui s'annonce, qui est là et qui s'accélère, on voit tous venir, etc. Le fait de privatiser l'eau, cette ressource qui est de plus en plus rare et de plus en plus pollué, qui plus est d'ailleurs au passage, on va en parler, etc., est une forme de résistance de la société, mais une résistance de survie. Et ne pas aujourd'hui s'inquiéter de ce qui se passe autour de l'eau en France est une forme de séfité qui est entretenue, bien évidemment, largement par les lobbies qui, eux, ont intérêt à ce que cette ressource leur profite à eux et pas à l'intérêt général. Je crois qu'on ne peut pas extraire, et je sors de mon strict rôle d'observateur des pratiques policières en disant ça, mais comme on l'a dit en préalable, à l'observatoire des pratiques policières, nous sommes d'une totale neutralité comportementale pendant les manifestations, nous y tenons, nous le respectons absolument, et je le répète, et je n'arrêterai pas de le répéter, par contre, nous n'avons absolument aucune neutralité politique.